Comment j'ai été amené à faire cet exposé. C'est au mois de novembre que j'ai reçu chez moi à Neuchâtel la lettre la plus inattendue d'un groupe d'Osanois de Juifs qui me demandait par écrit si je voulais, devant eux, Juifs, hein, fermer, commenter le livre que j'ai écrit en 82, je crois, l'affaire Jésus. Je me suis étonné dans ma lettre, j'ai dit, je ne vois pas pourquoi. Alors ils m'ont dit, mais est-ce que vous avez une certaine optique des problèmes religieux qui nous intéresse. Je sais très bien, me disait-il, que vous avez parlé en chrétien, mais on vous connaît et je crois que vous posez les vraies questions. Alors je me suis mis à étudier, d'ailleurs nouvelle, ce que j'avais fait dans mon livre. J'ai lu entre-temps un livre de quelqu'un qui viendra peut-être ici, m'a-t-on dit, qui s'appelle Arthur Reeves, ça a mis le temps de s'en livrer au deuxième sous-titre, je crois, Le monde a mis un sens. Puis j'ai réfléchi parce que je réfléchis éternellement et plus la mort s'approche de moi, plus j'y pense. Et j'ai donc à vous apporter l'état présent de ma pensée sur ces problèmes capitaux. Je vous demande, parlons un peu de cette espèce d'exhibition assez ridicule à mon âge. Enfin, allons-y, oubliez mon âge. Alors voilà, ça commence comme ça, c'est un constat. Le christianisme connaît une chute verticale. C'est indéniable. Quand je passe à mon propre pays, vous savez, la France, quoi, vous savez à quel point sont nombreux les prêtres qui sont partis. Depuis 1960, 4500 à 5000 sont partis. Et c'est un évêque, l'évêque de mon diocèse, quand je suis en France, j'habite dans les lois, et le diocèse d'Autun, c'est Monseigneur Le Bourgeois, qui est passé même mal vu à Rome, m'a dit à moi-même, vous savez, ce sont les meilleurs qui sont partis. Il voulait dire par là, ceux qui prenaient le plus au sérieux leur métier, et leur fonction de prêtre, et qui ont jugé qu'ils ne pouvaient plus continuer. C'est un mec qui m'a dit ça. Et le chiffre de la décrue des pratiquants est énorme. Monseigneur Marty a dit que pendant les 15 ans, je crois, où il était archevêque de Paris, 40% au moins d'assistants, les gens qui assistent à la messe. Nous sommes, je crois, 55 millions de Français, ben, il y en a à peine 10% qui vont régulièrement à la messe. Bon, c'est entendu. Mais ce qui vous étonnera, parce que ça m'a beaucoup étonné, c'est un chiffre que j'ai tout récent sur l'Italie. Je ne me doutais pas que la déchristianisation de l'Italie allait à ce degré. Je croyais qu'en Belgique, c'est à peu près comme en France, beaucoup d'abandon, plus de pratiques. Mais figurez-vous qu'au dernier chiffre, enfin, c'est un chiffre de 82, à Rome, vous attendez, à Rome, qui était rempli d'exercices et de religieuses, hein, à Rome, 7% des Romains vont à la messe régulièrement. 7%. Il s'est trouvé que, avec ma femme, nous avions pris l'habitude en 1951, je crois, d'aller passer quelques jours à Lindel. Pas du tout que Napoléon, je ne l'aime pas, mais parce que Lindel me plaisait. Eh bien, figurez-vous, quand on y est allé 15 ans de suite. 15 ans de suite, c'est 6 jours chaque fois. Et bien, quand on y allait, au début, on y passait sur un dimanche, l'église, et cette petite, je me rappelle, piano, ça s'appelait, était remplie de monde, avec des hommes aussi. Et la dernière année, c'est en 72, je crois, il n'y avait vraiment plus personne. Hein. Il y avait quelques vieilles femmes, pas un enfant, comme si on ne préparait même pas le catéchisme, mais il n'y a plus de première communion, et pas un homme. Là aussi, la chute la plus absolue. Hein. Je dois vous dire que j'avais remarqué sur la porte de cette église, à plusieurs reprises, au moment d'élection, des déclarations de l'évêque du Cru, je ne sais plus comment, probablement, qui disait que voter communiste était un péché mortel. Or, Lille était devenu, communiste, enfin, c'est une municipalité communiste. Bon. Si vous franchissez, non, si vous regardez encore les choses à vous dire en Europe, bon, il y a d'abord l'apostasie des Russes, hein, depuis 1917, ça veut dire même 250 millions, c'est-à-dire à ce moment-là, 250 millions d'habitants, 10 chrétiens, enfin orthodoxes, et qui sont maintenant élevés, dressés dans l'athéisme. Je viens de vous dire, et j'y tiens, qu'en Pologne, il se produit des choses dont on ne parle guère, à savoir que les Polonais continuent à être très catholiques, dans une mesure d'opposition nationale, hein, parce qu'ils sont occupés par les Russes. Mais je le sais, par des gens bien placés, que le haut clergé, il s'inquiète de ce qui se passe dans les universités. Parce que si dans la rue, les universitaires, enfin les jeunes gens, font de l'opposition politique, en fait, ils se déprennent de plus en plus du christianisme même, ils ne vont plus non plus à l'église. Donc même en Pologne, oui. Franchise Atlantique, je les avais deux fois de suite au Canada. Et je vivais dans l'idée que le Canada était un des endroits les plus, entre guillemets, chrétiens, les plus catholiques du monde. Alors là, je vais apporter aussi un chiffre qui m'a été donné par le responsable même. La grande université catholique de Montréal s'appelle Laval. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est un évêque qui s'appelait Dom Montmorency Laval, qui au XVIIe siècle avait été le premier évêque de Québec. Alors l'université catholique s'appelle l'université Laval. J'ai été reçu par le directeur, qui était un évêque du reste, et qui m'a dit, il y a là 5 000 étudiants, 5 000. Il n'y en a pas 500 qui vont à la messe. Il n'y en a pas 500 qui vont à la messe. En plus, ça m'a permis de tout voir et je suis descendu dans un sous-sol où s'imprimait un petit journal interne à l'université, composé par les étudiants. Vous n'imaginez pas l'anticléricalisme de ce petit journal. À l'intérieur de leur petite baraque là, où ils travaillaient, il y avait des caricatures et c'était en particulier le pape, qui était l'objet des précarités principales. J'ai vécu là-bas une première fois 15 jours, une seconde fois près d'un mois. J'étais dans des milieux, bon, si vous voulez, intellectuels, je connaissais le professeur, et surtout aussi le milieu de la radio et de la télévision, puisque je travaillais à la télévision. J'ai rarement vu un athéisme militant plus énergique que celui de ces Canadiens. Il faut dire que je crois que pendant des années, ils avaient été écrasés par un clericalisme affreux. Ils me parlaient d'un monsieur dont je vais le nom maintenant, Dumil, je crois. Et c'est une réaction, quoi, une réaction de révolte. Jean-Claude Guilibault, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, c'est un grand reporter du Monde, est allé il y a 3 ans, je crois, au Canada. Je l'ai vu au retour du Canada, et il m'a dit en effet, c'est au Canada que j'ai rencontré l'anti-religion, l'athéisme le plus virulent. Regardez encore un Éric du Nord, qui passe aux États-Unis, protestant et catholique mélangé, c'est le pays des sectes, comme vous savez. Et je crois savoir que dans le serment que prononce le président des États-Unis, le nom de Dieu apparaît. Et bien, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour s'apercevoir que la politique pratique, politique des États-Unis est pratiquement aussi athée que la politique des Russes. Les Russes sont simplement plus loyaux. Regardez l'Amérique du Sud. Le pape s'est précipité, comme vous savez, et s'est fait acclamer. Mais tout le monde sait que ce catholicisme latino-américain, c'est une ironie. Ça vient de l'occupation espagnole ou portugaise, que ça en réalité c'est un paganisme à peine coloré en christianisme, et que sous le nom de saint, on adore toujours des idoles anciennes. Ça ne compte pas, c'est spécialement. Bon, alors voilà pour le christianisme. Regardons rapidement l'islam. Ben, l'islam, ça a l'air de tenir très bien, vous savez, hein. On dit même qu'il y a une expansion de l'islam, parce qu'en Afrique, l'islam gagne. Vous savez, ce qui se passe en Iran, c'est un islam bouillonnant. Mais là aussi, je dois vous dire que si vous allez au-delà de l'apparence et au-delà du peuple, je n'aime pas dire le peuple à la foule, si vous voulez quoi, vous regardez les intellectuels, et il y a déjà un dissentiment. Quand j'étais professeur, j'étais professeur 2 ans au Caire, j'avais beaucoup d'admiration pour le doyen dans l'université. J'ai rechargé des études françaises à l'université du Caire. J'avais donc au-dessus de moi le doyen qui s'appelait Taha Hussein, qui était un grand écrivain musulman. Eh bien, j'étais affilié avec lui pour qu'il me dise, personnellement, je suis agnostique. Je crois pouvoir vous dire également qu'en Égypte, où la population est musulmane, quoi, et même fervente, les dirigeants, pour vous dire le nom, Moubarak, personnellement, C'est un homme qui est détaché des convictions religieuses. Chez les Israéliens, en Israël, j'y suis allé deux fois. On en parlait encore tout à l'heure à table. Je crois pouvoir vous dire que les trois quarts de la population sont détachés de la pratique religieuse. Il s'est trouvé que j'ai passé un sabbat à Tiberiade. Eh bien, c'était pas édifiant. Il y avait là toute la jeunesse dorée de Tel Aviv et qui se conduisait comme n'importe qui. Enfin, le sabbat n'existait pas. L'ambassadeur, que j'aimais bien, que je connaissais beaucoup, a dit, j'ai entendu moi-même, me disait l'ambassadeur, je ne pense pas qu'il ait menti, de la bouche de Moshe Dayan, ceci, qu'est-ce que c'est qu'Israël? C'est une race, une nation, c'est certainement pas une religion. Parce que Moshe Dayan fait vos professions d'être agnostique. Bon. Et puis maintenant, si vous regardez l'Inde, je peux vous affirmer que l'hindouisme est encore très vivant, mais je peux vous affirmer aussi que les dirigeants, le fils d'Indira Gandhi par exemple, n'est pas un croyant. Et si vous regardez le bouddhisme, qui est très pratiqué encore au Japon, je puis affirmer que les milieux d'affaires et les milieux diplomatiques du Japon sont très détachés du bouddhisme. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive donc? Ben, je crois que ce qu'il faut dire, parce que c'est évident, que la foi recule avec l'avancement de la science. C'est l'avancement de la connaissance qui fait que les zones d'ignorance sont occupées par un personnage qu'on appelle Dieu, mais à mesure que l'ignorance diminue, la foi diminue elle aussi. Ce qui fait que, pratiquement, le christianisme, protestant ou catholique, apparaît à beaucoup de gens comme un conservatoire archaïque de mythologie ou d'abstraction, mais dont se détache tout esprit raisonnable. Je crois pouvoir vous dire aussi que, parce que je l'ai observé autour de moi, que si à 5 ans, un enfant écoute avec émerveillement ce qu'on peut lui raconter de sa propre foi, à 16 ans, il hausse les épaules. J'ai lu dans un texte, dans un carnet, je crois, de Tolstoï, ce qui m'a beaucoup frappé. Il était allé, parce que le patron de Yersinia Polyam, comme vous savez, ça c'est le propriétaire, quoi. Il avait désiré un jour assister au catéchisme. Que c'était un pope. Et il avait été, c'est son mot, épouvanté par ce que disait ce pope. Et il écrit dans son carnet, l'église orthodoxe, hein, l'église fait infailliblement des athées. Bon, et bien on va regarder de plus près, si vous voulez bien, ce sont ces sens. Je le jure, j'aurai, de cas par cas, des réflexions à vous proposer. Passons d'abord à Voltaire. Avec une des grandes occasions de rire de Voltaire, c'est de se moquer de l'arrogance des fourrons que nous sommes. Déjà, la Terre dans l'univers est infiniment petite, ça ne compte pas. Et sur la surface de la Terre, il y a des personnages qui se prennent au sérieux, qui s'appellent les hommes, et qui sont positivement invisibles. Or, ils se croient si intéressants qu'ils pensent qu'il y a un Dieu qui s'occupe d'eux, qui les surveille. Rire de Voltaire. Mais Pascal avait déjà répondu à Voltaire, d'avance. Il avait attention, il y a une confusion de deux domaines, hein. La spatialité de la dimension et ce qui échappe à la dimension. Il se trouve que l'homme, dans sa réalité corporelle, est en effet rien, si vous voulez, imperceptible. Mais il se trouve qu'à l'intérieur de cet homme, il y a un esprit. Et l'esprit n'est pas susceptible de dimension. On ne peut plus parler d'imperceptibilité, d'infime, quand il s'agit d'esprit. L'esprit n'est pas justifiable du système métrique. Parce que c'est comme la fameuse polémique de Voltaire tombe à fond. Regardons maintenant le progrès du matérialisme déterministe. Matérialisme, dont vous l'apercevez sous la forme géante de la métrique au XVIIIe siècle, repris par Feuerbach, développé par Marx et Engels, développé très maladroitement du reste par Lénine, je ne sais pas si vous l'avez lu, comme j'ai lu fait moi, son livre de 1908 qui s'appelle Matérialisme et l'Empire du Catégisme, qui est extrêmement faible, mais quelqu'un d'important en France qui s'appelait Taine et qui avait une grande audience, Taine avait adhéré au matérialisme déterministe. Un homme comme Zola, par exemple, qui avait une formation chrétienne, et qui avait adhéré au christianisme très profondément, hein. Il le laisse apparaître, si vous lisez en transparence, dans la faute de l'abbé Mouret. Ce garçon avait raté son bachot, vous le savez sans doute. Et bien voilà, le jeune Zola qui s'est habillé à Paris, et qui tombe dans ce milieu intellectuel de la fin du Second Empire, où le matérialisme déterministe était à la mode. et deux fils Hugo, par exemple, pour le désespoir de leur père, parce que Hugo était resté croyant, ses deux fils étaient positivement incroyables. Il y a Zola qui n'a pas son bachot. Il suit le mouvement. Et il va devenir lui aussi un matérialiste et déterministe parce que c'est un peu faire du temps. Quoi. Alors, le matérialisme déterministe, en 1904, a connu un accès à l'adresse que j'aurais fait relever aussitôt. Sauf face à la Chambre des députés, et il y a Marcelin Berthelot qui parle. Vous savez que Marcelin Berthelot était à la fois un grand chimiste, je crois, et ministre des Affaires étrangères. Et il a l'imprudence en 1904, janvier 1904, je crois, de dire à la Chambre, le monde est aujourd'hui sans mystère. Ce qui fait sourire Jaurès, qui fait une intervention, et qui dit, je m'étonne qu'un homme de votre connaissance puisse employer une phrase aussi dangereuse, parce qu'il n'y a pas de plus grand énigme que la matière, disait Jaurès. Ben c'est vrai, hein, l'aventure de la matière est extraordinaire. Pensez à ce qu'est devenu le mot et l'idée de atome, depuis Démocrite jusqu'à aujourd'hui. Démocrite, Épicure, Lucrèce, ce sont des atomes, vous savez, qui sont tout de même denses, mais qui sont presque pesables. Et aujourd'hui, ça n'est plus rien. La matière est apparue comme indéfiniment séquable. Quand on croit être arrivé à un atome final, eh bien, il se comporte. C'est bien qu'on en arrive à ce fait, à ce que j'ai entendu dire. La matière est indéfinissable, sinon vibration ou énergie. Oui, mais vibration ou énergie, de quoi ? Point d'interrogation. Deuxièmement, comme la science refuse, et elle a raison, une intervention surnaturelle. Intervention surnaturelle que vous connaissez d'après la Sixtine, l'admirable fresque de Michel-Ange. Vous vous rappelez qu'il y a un dieu barbu qui avance sa main vers un Adam qui soulève sa main, et avant même que les deux doigts se touchent, l'âme a passé de Dieu à Adam. Comme si on n'admet pas ça, et comme la science a raison de ne pas l'admettre, et comme l'évolution est même fermée sur elle-même, alors où est la pensée ? Sinon, que la matière est elle-même, contient elle-même d'une manière cachée, secrète, le présent, la pensée. La matière est la virtualité de l'esprit. Ce qui fait qu'un homme comme Teilhard avait risqué cette expression qui a fait scandale. Sainte matière, la sainte matière, disait-il, parce que c'est de la matière que sort la vie et l'esprit. Comme s'il y avait dans la matière, je ne sais quel profond souffle, ou comme dit encore Teilhard, une âme de la matière qui est insaisissable. C'est un premier X. Et la biologie maintenant, ben, il y a deux biologistes, il y en a même trois, parce qu'il y a deux qui ont été particulièrement offensifs. L'un s'appelle Monod, Jacques Monod, et l'autre s'appelle Changeux. Monod, ça remonte déjà une quinzaine d'années, peut-être 20 ans. Changeux, c'est il y a deux ans. Monod, c'est le hasard et la nécessité. Hasard, on a souvent remarqué, c'est pas moi qui le trouve, que ça remplace souvent le mot Dieu, quand il ne veut pas dire Dieu, il dit hasard, mais ça n'explique pas davantage. Quand à la nécessité, je reviendrai dans un paragraphe spécial. Mais je voudrais m'arrêter sur la conclusion de Monod. Vous vous rappelez peut-être. Monod dit, l'apparition de l'homme est comme un accident d'évolution. Un accident d'évolution. Et l'homme est en lui-même insignifiant. Je voudrais qu'il rejoigne sans le vouloir Voltaire. Insignifiance de l'homme. Alors là, je ne marche pas du tout parce que il a si peu l'insignifiance, l'homme, que non seulement il conçoit l'évolution, mais qu'il est capable de la stopper. Puisque nous sommes arrivés, vous savez, par notre connaissance, au point d'être capable de détruire la vie sur la planète entière. Donc on ne peut pas parler d'insignifiance pour un être qui est capable de stopper l'évolution. Maintenant, passons à M. Changeux. Peut-être vous rappelez-vous la publicité qu'on a faite autour de son livre qui s'appelait L'homme neuronal. Qu'est-ce que les neurones, c'est les cellules des centres nerveux. La photo de M. Changeux m'a beaucoup amusé parce qu'il n'y en avait qu'une qui servait tout le temps à la publicité, où il avait une joue dans la main, comme s'il avait voulu dissimuler une réaction, mais il n'en croyait rien, il était très content. Il avait un sourire, et un sourire presque triomphal. Et bien, je comprends mal son triomphe parce que, qu'est-ce qu'il nous explique ? Il explique, avec son homme neuronal, comment se produisent nos émotions, d'où elles viennent. C'est comme si quelqu'un pouvait nous expliquer d'une manière admirable la construction d'un piano avec ses touches, avec ses cordes, et comme si cet inventaire de la mécanique pouvait expliquer le pianiste. Il ne se rend pas compte, M. Changeux, qu'il y a tout de même quelque chose ou quelqu'un qui fait marcher cette machine neuronale. c'est pas fini. Il y a encore aussi des gens qui ont été extrêmement offensifs et structuralistes. On a dit, je n'ai pas vérifié, que ce serait Lévi-Strauss qui a lancé le mot structuraliste. Ce que je peux vous dire après l'examen, après multiples tentatives, c'est que je ne suis jamais arrivé à obtenir une définition claire, simple et intelligible de mot structuraliste. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais je sais ce qu'il explique. Qu'est-ce qu'il explique donc ? Eh bien, si le départ vient de Lévi-Strauss, qui n'était pas un linguiste, la plupart des structuralistes sont des gens qui ont travaillé comme Saussure sur le langage. Mais quelle dérive entre Saussure et un Lacan, ou surtout un Derrida, Lacan est mort, mais Derrida est toujours vivant. Qu'est-ce qu'ils nous ont expliqué, ces braves gens ? Ils ont expliqué que les textes que nous lisons, les textes littéraires, ils n'ont pas de substance réelle. Hein ? Ils n'ont pas de sens à l'homme. L'individu qui ajoute un sens au texte. Parce qu'il ne faut pas dire « je parle », ça c'est une phrase de Lacan. Il ne faut pas dire « je parle », il faut toujours dire « on parle ». C'est un « on » qui parle par notre bouche. Parce que l'homme n'est en fait, disait-il, que le carrefour éphémère de réflexes et de reflets. Il n'y a pas d'identité humaine, il n'y a pas de substance humaine. Par conséquent, les textes n'ont pas de valeur, n'ont pas de substance, n'ont pas de sens, et l'être même, l'être humain lui-même, n'a pas de substance. C'était une école de désespoir. Et quand je dis école de désespoir, je sais ce que je veux dire, et je ne prononcerai pas de nom propre, mais j'ai vu, enfin, j'ai connu de très près la disparition de trois fils d'écrivains agnostiques, qui se sont volontairement donné la mort par désespoir. On parlait d'aliénation. Saint-Urbain, en particulier, disait « Quiconque croit en Dieu entre dans l'aliénation parce qu'il ne s'appartient plus. » Il n'appartient plus à Dieu. Mais vous savez, la pire des aliénations, c'était bien celle que connaissaient ces jeunes gens élevés et dressés par le structuralisme, puisqu'il n'y avait plus de substance, puisqu'il n'avait rien à quoi se rattacher, sinon un plaisir dont le mur du fond était facilement accessible. Je voudrais que nous regardions maintenant, toujours dans cette perspective scientifique, l'évolution elle-même. Il y a un instant, je vous disais, à propos de Mono, et son côté la nécessité, parce que nous allons la regarder maintenant. Les biologistes sont tous d'accord pour dire que les cellules savent ce qu'elles ont à faire. Il y a un miracle, je peux dire un miracle permanent, et si permanent qu'il en est devenu aveuglant, c'est le miracle de la naissance d'un enfant. Est-ce que vous voulez bien avec moi réfléchir un petit instant à ce qui se passe depuis la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde pour aboutir aux milliards de neurones de notre cerveau? Ces cellules savent ce qu'elles doivent faire. Ces cellules sont programmées. Ces cellules obéissent à une nécessité, dit M. Mono. Et il va appuyer sur le mot nécessité pour éviter un mot qui lui déplaît beaucoup, c'est le mot de finalité, qui a une coloration et une odeur cléricale. Finalité, on disait, vous savez, que des choses se développent en vue d'une certaine fin. Alors, comme il ne veut pas de finalité, il a inventé un mot, mais qui est vraiment un tour de passe-passe, un mot qu'il a construit lui-même, que vous trouvez dans son bouquin, qu'il appelle la téléonomie. Si vous réfléchissez à la construction du mot, vous apercevez que ce sont deux mots grecs qu'il a réunis. Téléonomie, télos, le but, et nomos, la loi. Donc c'est la loi de la fin. Les cellules obéissent à une loi de la fin, FIN. Est-ce qu'on peut concevoir un programme sans programmateur? Est-ce qu'on peut concevoir une loi sans législateur? Ça serait le deuxième X. Le premier X que je vous ai présenté était celui de l'âme de la matière. Le deuxième serait celui du législateur ou du programmateur. Voilà pour la nécessité. Mais ce n'est pas la seule chose que je peux vous dire à ce propos encore. C'est que il y a une autre voie de connaissance. Et je dis bien de connaissance, hein, de connaissance scientifique, si vous voulez, enfin, une connaissance irréalisable, qui n'est pas chiffrable. Et pour y venir, je vais prendre quelques citations. Première citation, c'est de quelqu'un que vous avez peut-être vu comme moi aujourd'hui à France 1. Je parle de François Jacob. l'autre prix Nobel, en même temps que Mono, et qui a fait un très beau livre, La statue intérieure, mais qui avait fait L'âge du vivant. Et j'ai recopié, ici dans mes notes, une phrase de François Jacob dans son L'âge du vivant. Je vais vous la lire lentement, elle me paraît importante. La poésie et la musique disent des choses profondes et parfaitement intelligibles en langage scientifique. J'ai envie de vous répéter ça. La poésie et la musique disent des choses profondes mais parfaitement intelligibles en langage scientifique. C'est Pascal qui a employé l'expression connaissance du cœur, et j'y reviendrai tout à l'heure. J'aime pas l'expression connaissance du cœur parce que ça fait tout du sentimental, ça fait presque du cœur, ça. Je vous proposerai tout à l'heure une autre interprétation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Attention, il était tellement loin de parler d'affectivité, Pascal, qu'il disait que cette connaissance du cœur, c'est celle qui nous conduit au premier principe des mathématiques. Et en effet, si vous y réfléchissez, le premier principe des mathématiques, ils ne sont pas démontrables. Ils appartiennent à notre construction même de l'esprit. Ils font partie de notre conception du monde, à notre notion de la raison. Bon, alors, disait-il, il y a une connaissance intuitive, connaissance du cœur, qui peut aller très loin. Ça, voilà ma première citation. La deuxième citation, ce n'est pas une citation littérale. Si celle-là est littérale, la troisième ne sera pas littérale. La deuxième citation littérale est de Freud. Pendant à son ami Putnam, P-U-T-N-A-M, je ne sais pas si je prononce bien Putnam. Le 8 juillet 1915. Et Freud écrit à son ami Putnam, « Quand je réfléchis à ma propre vie, je dois dire que je me suis toujours efforcé d'être juste et bienveillant. Et comme je me demande pourquoi, je n'ai pas de réponse. » Bon. Alors, ma troisième citation non littérale, c'est le dernier chapitre de L'hasard et la nécessité. Dans L'hasard et la nécessité, Mono s'évertue à nous démontrer la science de l'homme et que nos catégories morales sont absolument factices, fictives, qu'il n'y a pas de morale. Celui qui dit la seule loi du chercheur, c'est de chercher. La poursuite de la vérité. Mais il n'y a pas de loi morale. Alors comment peut-il ajouter le dernier chapitre de son livre, qui est très beau, qui est très beau, et qui a un engagement personnel, et dont il a fait la preuve en 68, un engagement personnel pour la justice sociale. Au point que, avec des guillemets évidemment, il va oser employer le mot royaume. Cet homme, croyant, agnostique, matérialiste, finit par une déclaration d'engagement au service de quelque chose qu'il ne peut absolument pas justifier. Mais il y a mieux. Et le souvenir de maintenant que j'ai mis dans mon livre, j'y reviens en le développant. Ça se passe au mois de mars 80. Quelques semaines avant la mort de Sartre, qui était mon camarade. J'étais avec lui à l'école normale pendant 3 ans. C'est une interview à un ami, Denis Lévy. L'interview est apparue dans l'Observateur, facile à se rappeler, numéro 800 de l'Observateur. Je dois vous dire qu'il y a eu un tel tollé à la suite de cette publication qu'un drame s'est produit et que Mme Simone de Beauvoir a prétendu qu'il s'agissait d'une escroquerie. C'est le mot qu'a employé aussi quelqu'un que je respecte pourtant, qui s'appelle Emmanuel Todd, et qui a dit que c'est impossible que Sartre dise ça. Alors, je vais vous apporter un fait que je puis vous affirmer, vérifier. Avant que l'Observateur ne publie le texte de Sartre que je vais vous lire, c'est un effet presque incroyable, Madame Simone de Beauvoir avait insisté auprès de l'Observateur pour que ce texte ne passe pas. Alors, dans le bureau de Jean Daniel, directeur de l'Observateur, s'est réuni le comité de rédaction de Temps Moderne, avec Simone de Beauvoir à la tête. Et par une astuce que je ne connais pas, mais qui est très banale, paraît-il, les spectateurs qui étaient là pouvaient entendre non seulement ce que disait l'appareil M. Jean Daniel, mais ce que disait au bout du film Sartre. Un Sartre dont la voix était égarée à elle-même et qui parlait en toute connaissance de cause. Alors qu'on dira plus tard qu'il était devenu un délire mental. Et ce que quelqu'un qui était là présent, qui m'a raconté, a dit, c'est que Jean Daniel disait à voix haute, M. Sartre, je vous demande de l'expliquer, de me dire si vous êtes d'accord ou non pour la publication telle qu'elle est intégrale de ce que vous avez dit à Béni Lévy. Et l'auditeur qui était là, et qui m'a parlé, qui m'a dit j'ai entendu, c'est-à-dire Sartre dit de la voix la plus claire et la plus nette, je tiens à ce que ce texte paraisse intégralement tel quel. Bien, ce fameux texte si extraordinaire de Sartre, en voici l'essentiel. Chaque conscience, n'importe laquelle, comporte une dimension que je n'ai pas étudiée, la dimension de l'obligation, une sorte de réquisition qui va en nous au-delà du réel. Nous sommes mandatés. Évidemment, quand on pense à l'existentialisme, aux déclarations de Sartre sur la liberté absolue, disait-il, notre liberté n'est limitée que par la liberté d'autrui, mais il n'y a pas d'autre morale que celle-là. Et que tout à coup, juste avant de mourir, Sartre fait parler d'obligation, de mandat, de contrainte intérieure, il y a là un mouvement stupéfiant. Je ne sais pas si vous connaissez le nom d'un jeune écrivain que je respecte, qui a dit à l'heure, qui s'appelle Finkielkraut, qui écrivait, je ne vois plus sa signature, l'Observateur. Et un an après, en avril 81, ce jeune homme, qui est professeur Thuneau, a écrit dans l'Observateur ceci: était-il donc dans le destin de Jean-Paul Sartre de mourir inécouté? Inécouté. Alors tout ce que je viens de vous dire, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a cette fameuse connaissance intuitive dont je vous parlais qui nous induirait peut-être à prononcer le mot Dieu. À peine ai-je prononcé ce phonème que je me rendrai bien compte de du danger. Qu'est-ce que peut mettre l'intelligible à notre esprit sous cette syllabe vertigineuse? Dieu est un mot que je voudrais employer qui a été économique. Parce que il est compromis. Il a été littérairement compromis par des gens comme Chateaubriand pour avoir des fins de phrases qui débouchent sur l'infini. Mais il a été sali, souillé par l'emploi qu'on en a fait. Par exemple, par l'emploi que le droit divin en a fait. Vous savez que les rois se faisaient obéir à l'égal de Dieu. Vous savez qu'un homme comme Bossuet est là, c'est responsable de cette courtisanerie démente. Je ne comprends pas. Peut-être que je me trompe. Et c'est parce que je travaille en ce moment et que je vais publier un livre sur Robespierre. Je crois qu'il n'y a vraiment que l'homme de l'être suprême, le 8 juin 94, qui a parlé de Dieu au peuple dans une autre intention que de le duper ou de la servir. D'habitude, le mot Dieu servait à tromper les gens et à une imposture. C'est pour ça que je ne l'emploie qu'avec une mesure. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle substance peut-on trouver derrière ce mot? Alors voilà, c'est probablement la chose la plus importante que j'ai à vous dire, et j'espère être clair maintenant. Les quatre sous-achants que je vous ai apportés indiquent qu'il y aurait au fond de nous-mêmes un élan vers ce que l'on appelle, dans notre jargon, le bien, le bon, le vrai. Un élan. Tout de suite, vous avez l'objection bien connue de Feuerbach, développée par tant d'autres. À savoir que nous avons des rêves en nous et que nous les projetons ces rêves dans une réalité illusoire et fictive. Ce ne sont que des rêves, nous avons tellement envie que ce soit vrai que nous imaginons un monde supérieur où ces idées fausses prendraient substance. Attention, la réponse à cette objection avait été faite déjà par quelqu'un que Feuerbach ignorait peut-être. Tout à l'heure, je vous parlais d'une réponse préalable de Voltaire faite par Pascal. Feuerbach doit écrire vers les années 40. Et le texte que je vais vous apporter, qui est de Lamartine, qui serait bien inattendu dans cette affaire, c'est un texte de 1839. C'est même un alexandrin. En 1839, Lamartine a publié son dernier recueil. C'était un recueillement, précisément. Pourtant, il va mourir en 1869, et à partir de 1939, il ne pleura plus de vers, parce qu'il est un homme politique et qu'il croit qu'il compromet son sérieux d'homme politique en étant poète. Et bien, en 39, dans les recueillements, vous avez un alexandrin qui m'a beaucoup frappé, que je vais essayer de développer. Cette aspiration qui prouve une atmosphère. Je recommence. Cette aspiration en nous qui prouve une atmosphère. Il a bien dit prouve. Pourquoi donc? Eh bien, point de vue matériel, point de vue concret, si vous voulez quoi. Quand on aspire à ce. C'est parce qu'il y a un air respirable. Le seul fait d'une cage thoracique, par exemple, prouve qu'il y avait de l'air respirable. Supposez que la Terre soit une planète morte et que je ne sais quel martien vient de visiter, il faut que les squelettes humains s'aperçoivent qu'il y a une carcasse qui contenait récemment une cage thoracique, quoi. Ils ont conclu qu'il y avait un air respirable.
si on attire ces exigences-là, bon, il va transposer ça du plan matériel au plan, au plan moral, plutôt, pas vrai, moral, qui aspire à faire quelque chose qui touche déjà, qui connaît déjà. C'est Platon qui l'a dit, c'est quand on me l'a fait dire sur mon poste de philo, quand j'étais étudiant, quand je parlais de ma. C'est Platon qui a défini le désir, par une double appartenance. Il dit le désir est à la fois, il parle avec Poros et Peña. Poros, ça veut dire abondance. Et Peña, le mot l'indique lui-même, pénurie, ça veut dire manque. Hein. Pour désirer quelque chose, disait Platon, il faut déjà en avoir une préconnaissance, ou un goût, quoi. Pour avoir le manque de quelque chose, il faut y avoir goûté à quelque chose. On ne désire que ce que l'on connaît déjà d'une certaine façon. Mais on ne connaît pas assez, c'est pourquoi on le désire, il en manque. Alors, est-ce que, selon Lamartine, il paraît-il que Lamartine est dans 50 sommes déjà, mais je ne dis pas, je ne suis pas de mémoire sans avoir vérifié. Le seul fait que nous aspirions à quelque chose qu'on appelle l'absolu prouve, c'est Lamartine, prouve l'existence de cet absolu. Il y a en nous une espèce de connaissance intuitive de ce qui est l'essentiel. Il y a une connaissance par contact, c'est là que je voudrais remplacer Pascal, cette connaissance du cœur m'ennuie. Alors je dirais connaissance par contact. Et Dieu, ce mot si difficile. Savez-vous que saint Thomas, qu'il faut tenir à l'écart maintenant, parce que saint Thomas, bien qu'il était déclaré insurpassable par Léon XIII, de même que M. Sartre, que Sartre disait que Marx était insurpassable, saint Thomas, vous savez, est tout de même quelqu'un chez qui la vue du monde est encore hantée compernicienne. Hein. Saint Thomas est quelqu'un qui s'imagine que la Terre est plate, que le soleil tourne dans la Terre et que les étoiles sont des lumières décoratifs. Donc à écarter. Mais c'est le même saint Thomas. Et ça, il y a quelques années seulement qu'on me l'a révélé, ça m'a fait épater. Envoyé en latin, il parlait latin, la phrase souvent « Hoc quod cognomina museum ».« Hoc quod cognomina museum ». Cela que l'on appelle Dieu. Oui, c'est saint Thomas. Cela que l'on appelle Dieu. Eh bien, si, j'entends pour vous, si cela que l'on appelle Dieu était la totalité vivante de ce vers quoi notre cœur va spontanément. C'est-à-dire le vrai, le bon, le bien, ou si vous voulez encore la bonté, la charité, la tendresse ou l'amour. Voilà une possibilité d'entrevoir ce que pourrait être Dieu. Et je vais plus loin, et je vous dirai ça, c'est toujours même si comme là dans mon livre, je demande pardon de la répéter. Quelque chose en nous sait, déjà savoir, c'est Dieu comme la boussole, c'est le pouce. Et alors que vous voulez parler d'aliénation, quand il n'y avait plus de substance humaine, il me semble que dans une vue du monde où Dieu apparaît comme ce centre de flamme, ce centre vivant, de tout ce qu'il y a de meilleur, et donc à ce moment-là, ce n'est plus une aliénation, c'est le contraire d'une aliénation. Quand l'homme se possède, quand l'homme revient sur lui-même, comme il touche son centre, si vous voulez, et bien le voilà qui est en contact direct avec sa substance, c'est le contraire d'une aliénation, c'est au contraire le sentiment de son existence réelle. Est-ce qu'il y aurait dans cette direction une chance pour l'humanité? Une chance en particulier pour ce christianisme dont je vous parlais tout à l'heure et que je vois mourant. Moi, chrétien, j'ai l'impression d'appartenir à une espèce en voie de disparition. Et je me demande si, dans un tas d'interrogations que je vous propose et que j'ai expliqué dans les amis juifs de Lausanne et qui en ont été contents, qui m'ont remercié, je me demande si, d'abord pour les chrétiens et ensuite pour les non-chrétiens, il n'y a pas de chance, il n'y a pas un renouvellement possible. Oui, donc, que je vous dise bien la pensée à Dieu. Savez-vous qu'en 1679, un prêtre qui s'appelait Richard Simon, avait tenté une première exégèse des textes de l'Ancien Testament. Son livre s'appelait Histoire critique, oui, Histoire critique du Vieux Testament. Histoire critique du Vieux Testament. Eh bien, vous savez peut-être que Bossuet a répondu tout de suite qu'il est condamné à Rome et que Richard Simon a été muselé. Eh bien, du côté chrétien, heureusement pas du côté protestant, mais du côté catholique, terriblement, interdiction, oui, interdiction d'exégèse. J'aurais dû vous dire en commençant, lorsque je vous parlais du recul de la foi devant la science, j'aurais dû vous parler de l'effort retardataire de l'Église catholique à laquelle j'appartiens, et là j'en suis pas fier. Vous savez bien que tout ce qu'ils ont fait, les prêtres pour que la science ne ne serait pas écouté. Vous savez que c'est en 1633, Galilée était condamné. Mais ça n'était peut-être pas, c'est une découverte récente, ce n'était pas dans mon livre, ce n'était même pas dans la conférence de Lausanne, que dans le catéchisme de Paris, dans l'année 1902, que j'ai lu, qui est sous les yeux, il y avait la date de la création du monde. Et bien c'était 4004, je ne sais même pourquoi 4. C'est en 4004 que Dieu a créé le monde, disait l'archevêque de Paris. Est-ce que vous savez que c'est en 1950, que le pape Pie XII a déclaré deux fois obligatoire la monogénèse. Qu'est-ce que ça veut dire, monogénèse? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un premier couple, qui s'appelait Adam et Ève, ou si vous voulez, un seul premier couple, et puis tout de suite réussi. Alors qu'on sait très bien qu'il a fait des millions d'années pour qu'on passe du pré-hominien à l'homme d'aujourd'hui. Bon, ben, les deux amenés, c'est le combat de retardement. Mais je vous parlais d'exégèse. Eh bien, par bonheur, grâce à Léon Tresco de Nemji, c'est vrai. L'exégèse catholique a commencé à travailler. Puis il y a eu un coup de hache porté par le pape Pie X contre les modernistes. Vous savez que ça a été affreux. Il y a eu une inquisition terrible, il y a eu des gens qui ont fermé la bouche. Et ça s'est prolongé tellement que Teilhard Chardin lui-même ne pouvait plus rien publier. Vous savez, c'est bien après le modernisme. Ben, où en sommes-nous maintenant? Ben, regardez pour le Vieux Testament. Je m'adresse probablement peut-être à l'extrême. Mais il est tout à fait certain, et je ne vais scandaliser personne, en disant qu'il est maintenant établi que le Pentateuque n'est pas de Moïse. Qu'est-ce que c'est le Pentateuque? Et bien c'est, voyons, la Genèse, l'Exode, le Lévitique et non le Deutéronome. Hein, c'est bien ça. Et bien ces cinq ne sont pas, certainement pas, de Moïse. Isaïe. Il y a deux, ou peut-être trois, Isaïe. Je me rappelle encore l'indignation de Flaubert. Je le connaissais bien, Claudel, avec moi, il était très vivant, ses propos. Il m'avait dit, il y a un curé de la Bestalina, que j'appelle Jacques l'Entreur, me disait Claudel, parce qu'il dit, il y a deux Isaïe. Je suis un poète, disait-il, hein, Claudel. Je connais mon métier. Hein. Et bien, dans ce qu'on appelle le premier et le second Isaïe, c'est la même inspiration, c'est le même bonhomme. Mais non, il y a 5 siècles de distance au moins entre le premier et le second Isaïe. Hein. Bon, mais qu'est-ce que c'est que la Bible? Ben, la Bible, c'est un recueil, quoi. Monsieur Tresmontant, qui est un, je crois qu'il est catholique, qui est professeur à la Sorbonne, dit la Bible, c'est une bibliothèque hébraïque. C'est vrai, ce sont des textes qui s'échelonnent, quant à leur fabrication, sur environ mille ans. Donc, il y a une exégèse biblique, une exégèse d'Ancien Testament, qui est absolument valable et qui n'est très loin d'être achevée. En particulier, le Cantique des Cantiques est un texte qui est tout à fait, c'est évidemment sensuel et même sexuel, et qu'on a aucune interprétation qui n'est probablement pas la bonne. Enfin, ça fait partie de la Bible. Bon. Quant au Nouveau Testament, là, laissez-moi m'exprimer avec trop d'indécence. Allons-y, quoi. Je suis très préoccupé de cette affaire parce que vous savez que par les journaux, il y a un type qui s'appelle M. Paoli, j'ai décidé de faire un film avec mon bouquin. Il est venu me voir et je suis très inquiet. Je n'ai pas l'impression qu'il a compris comme moi le personnage de Yeshua. Jésus, elle s'appelait en langue de Ravel, Yeshua. Et la question que ce film est en train de se tourner au Maroc. Il doit se terminer en mars. Et j'ai exigé, bien entendu, avant que toutes les autorisations que mon nom figure au générique, j'ai demandé à que le film soit projeté. Je refuserai mon nom au générique si le film n'est pas conforme à mes idées. Laissez-moi vous dire ce que je pense des évangiles et de ce personnage qui s'appelle Yeshua. Avec plus de liberté que je n'ai fait jamais. Ben alors, qu'est-ce que c'est que les évangiles? C'est des aides-mémoires. Les plus proches de nous, enfin les plus proches des événements, 60-70 à peu près, hein. Ça doit être Saint-Marc ou Saint-Matthieu. Et puis le dernier, Saint-Jean, doit être 90, entre 90 et 100, à la fin du premier siècle. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des aides-mémoires. Quand a disparu la génération qui avait vu de ses yeux ce personnage qui s'appelait Yeshua et qui enseignait. Quand il n'est plus là, quand la génération n'est plus là, alors ses disciples se disent, il faut tout de même qu'on explique aux gens ce qu'il est venu dire. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Le Matthieu, le Luc, le Marc, le Jean, c'est un cas particulier. Ils ont dit ce qu'ils se souvenaient. Et dans leur langue à eux, ce sont des textes qui sont à la fois datés et situés géographiquement. Des gens qui emploient un vocabulaire qui n'est plus le nôtre. sont des textes qui sont, pardonnez-moi, suspects. Enfin, je veux dire que leur vérité est contestable, parce que déjà, si vous les rapprochez les uns des autres, vous apercevez des contradictions très graves. Il n'y a pas tellement longtemps, c'est juste avant les sermons de bouquin que je me suis aperçu que Luc et Matthieu disent des choses contradictoires sur la famille où est né Jésus. Hein, puisque selon Luc, ils habitaient à Nazareth, et c'est à Nazareth que l'annonciation a eu lieu. Et si vous reportez à Matthieu, vous apercevez qu'ils se sont établis, ils vivaient à Bethléem, hein, la petite famille vivait à Bethléem. Puis c'est sauvé en Égypte parce que paraît-il, Hérode voulait tuer les nouveaux-nés. Ce qui est historiquement très mal défendable, puisque Hérode est de 4 avant Jésus-Christ. Hein. Bon, alors, dans Matthieu, il est dit que, craignant la persécution du fils d'Hérode, ils se réfugièrent dans une petite ville appelée Nazareth. Mais s'il y avait cette contradiction, il y en a des tas. Avec des affirmations, si vous voulez juste opposer, est inacceptable. Hein. Quand je l'ai dit à un moment, tu n'es pas avec moi et contre moi. C'est terrible. Alors que quand il dit à ses disciples, il n'est pas contre vous, il est avec vous, ben c'est insuperposable. Et l'apparition du ressuscité. Si vous essayez de les grouper, jamais on est d'accord. Les dernières paroles du Christ, pas d'accord non plus. Et quant à Jean, qui est aujourd'hui reconnu, en fait, tout le monde le reconnaît, les exégètes catholiques les plus intelligents reconnaissent que Jean présente une contre-interprétation. Jean dit, voilà ce que j'ai compris, voilà ce que vous voulez dire, le Seigneur. De même que vous savez, dans Pictive, quand il y a des discours qui sont prêtés à des gens, personnages d'identité, des discours qui sont reconstruits. Et bien de même, Jean reconstruit ce qu'il estimait que le Christ avait voulu dire. Par conséquent, la phrase de Jean Jacques Rousseau, que je vais citer, c'est une phrase importante, Rousseau parle des évangiles. Il dit, l'Église m'oblige à tout croire, on me dit, on croyait tout. On m'invite à ne rien croire. Or, disait le même Jean Rousseau, finalement, nous en savons davantage sur ce personnage qui s'appelle Jésus comme nous en savons sur Socrate. Nous avons à peine quelques informations sur Socrate, tandis que Jean Rousseau parle de choses. Vous savez aussi qu'il y a une interprétation qui a commencé le 18e siècle et qui, au siècle de nous sommes, en 1921, a fait du bruit, c'est celle de M. Couchu, disant, mais non, le Christ n'a jamais existé, c'est un personnage actif. Pourquoi il faut répondre par un simple examen, c'est une idée qui m'est venue et qui a été admise par mes amis juifs. Dans le Talmud, vous savez, c'est des conversations rabbiniques, enfin, c'est des rabbins qui expliquent, qui font les commentaires. Pas un seul rabbin, pas une seule page du Talmud, ni l'existence de Jésus. Tandis que c'était tellement tentant pour un rabbin de dire, mais ne passez pas au christianisme, de parler à des hébreux, hein, à des juifs, ne passez pas au christianisme. Tout ce qu'il raconte ces gens, c'est complètement idiot, il n'a même jamais existé. Personne ne dit jamais ça. On n'a pas contesté au premier siècle et au deuxième siècle. Aucun rabbin ne conteste l'existence réelle, physique, historique du Christ. Et comment est-ce que je le vois maintenant, hein, ce personnage auquel je pense, je veux dire, beaucoup. C'était un perturbateur, c'était un provocateur. Si vous réfléchissez à la façon dont il vous conduit avec l'église de son temps, c'était très dur. Vous vous rappelez l'épisode du Samaritain, il y a un type qui descend. Et Dieu fit sa descente. Jérusalem, au bord du Jourdain, au bord de la même mort, à Jéricho, il est attaqué par des pirates, et il est là, agonisant plus ou moins, dans le fossé. Passe un prêtre, hein, dit Jésus, passe un prêtre, qui dit, je m'en fous, je me détourne. Passe un lévite, c'est encore quelqu'un d'église, qui se détourne. Il faudra que ce soit un samaritain, ce que de dit. Mais vous savez ce que ça veut dire, samaritain, dans ce langage-là? Les samaritains, c'est des gens qui étaient maudits par les juifs fidèles. À Samarie, on n'adore pas le vrai Dieu. À Samarie, on va prier sur le mont Gerizim, mais on ne va pas sur le mont Son. C'est un infréquentable, quoi, c'est pas communiste. Ben, il faut que ce soit ce personnage infréquentable qui va s'approcher du Samaritain. C'est le même Jésus qui traite les rites avec un dédain incroyable. C'est bien qu'il dit le sabbat, c'est pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. C'est lui qui va jusqu'à dire, vous vous rappelez ce qu'a fait David quand il avait faim? Mais il est entré avec ses camarades, il est entré dans le temple, et il a mangé les pains de proposition. Ces pains de proposition, c'était des pains sacrés, qui étaient réservés aux prêtres. Ben, David s'est mis à manger partout dans les siens, et Jésus approuve ce geste-là. Il était provocateur encore quand il disait aux pharisiens qui étaient les plus fidèles, vous savez, c'était peut-être des gens très respectables. qu'est-ce qu'on avait, quoi, la bonne société, quoi, c'était des honnêtes gens. Et il leur disait des choses terribles. Il allait jusqu'à dire, les prostituées entreront avant vous dans le royaume de Dieu. Alors, je comprends qu'il courait des risques. Il faisait un emporté aussi, sûrement. Ce personnage, d'où étant l'homme des béatitudes, est tout de même le même personnage qui, dans le texte, prend des cordes, un paquet de cordes, c'est le texte, un paquet de cordes. Et avec ce paquet de cordes, il frappe sur les tables, les changeurs, et les pièces se mettent à rouler parce que ce change sur le parvis de l'étang lui paraissait un sacrilège. J'ai aussi l'impression, on me l'a reproché, mais je crois que je dis la vérité, un homme qui sourit, il y a facilement, enfin, il y a du humour. Oui, il y a du humour. Tenez la parabole que vous connaissez bien, la paille de la poutre. Déjà, avoir une paille dans l'œil, hein, bon, c'est une graine poussière. Mais avoir une poutre dans l'œil, ouais, c'est impensable, c'est une entrée de charpentier. Hein. Mais c'est énorme de dire ça, la poutre dans l'œil, on est con. Et puis deux fois le chameau, je vous rappelle, c'est. Et deux fois le chameau. Il y a premièrement que c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des dieux qu'un chameau, un dromadaire, quoi, de passer par le chat d'une aiguille. Évidemment, c'est excessif, et il aime l'excès. Hein. Mais il y a un deuxième chameau qui est encore plus extraordinaire, et je vous rappelle aussi, les pharisiens de l'homme, mais qui sont tellement ritualistes, qui filtrent leur nourriture. Hein. Alors ils enlèvent soigneusement le moucheron, mais ça va le chameau. Bah, avaler un chameau, c'est aussi difficile qu'avoir une poutre dans l'œil. C'est ce côté que je crois humoristique. Et quand il dit à Pierre, qui est un pêcheur, on va aller à la pêche aux hommes. Et il sourit. Quand même, plein de courage, de courage. Et là, je vais vous dire quelque chose que j'ai encore jamais dit. Hein. Et que j'ai dit à Pauline, il m'a dit, je le mettrai dans mon film, mais je suis pas sûr qu'il fasse. Quand j'ai écrit mon livre, je ne savais pas ce que je vais vous raconter maintenant. Et c'est de Victor Hugo. Vous savez peut-être qu'il y a un grand texte de Victor Hugo, c'est la fin de Satan, qui est très ambigu. J'avais lu quand j'étais à l'école normale, parce qu'il fallait que je lise, et puis on avait gardé peu de souvenirs, sinon qu'il y avait une plume de l'ange qui va permettre à Satan de se acheter à sa plantation et tout. Mais j'avais complètement oublié, et c'est l'été dernier, trouvant ce livre dans l'édition de Folio, donc très bon marché, je me disais, je vais relire cette fin de Satan pour voir ce que ça me dit. Et j'ai trouvé quelque chose que je veux vous raconter et qui m'a remué. C'est Hugo qui, il a le droit, il a le poète, hein, qui ajoute, il y a un chapitre plus à l'évangile, hein, il propose quelque chose. Et quand j'ai raconté ça de mon mieux à Pauline, il est apparu remué. Voilà, j'attache ça au courage de Christ. C'est vrai, c'est dans l'évangile que ses disciples lui disent, Seigneur, ne monte pas à Jérusalem, où il a besoin de monter, parce qu'après ce qu'il a fait, aller vers les prêtres, ça va mal tourner. Hein. C'est comme ça, on le guette, on va chercher un cœur chaud, puisqu'on peut pas le dire, même si les Romains se sont réservés le droit de vie et de mort. Alors, les prêtres vont le dénoncer à l'autorité romaine pour le faire crucifier. Il sait très bien à quoi il s'engage. Tu vas au-devant de la mort. Alors voilà, le thème que j'ai traité, une idée géniale, qui est Victor Hugo. Il représente Marie-Madeleine, que le Christ aimait certainement beaucoup. Monsieur Paoli veut absolument se coucher avec, moi pas. En fait, toujours est-il que. Bon, il y a Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine est là auprès de Jésus et le supplie en disant Seigneur, ne monte pas, n'y va pas, parce que c'est le Et le Christ se sourit, c'est tout. Alors, elle a une idée, Marie-Madeleine. Et c'est ça qui est la grande idée, une très belle idée victorieuse. Il va trouver la mère de Jésus. Et bien, il n'a pas voulu écouter ses camarades. Il n'a pas voulu écouter moi. Mais vous, madame, vous, qui est la même, si vous lui dites, ne va pas, Jérusalem vous écoutera. Alors il y a un grand discours en vers, que Victor Hugo met dans la bouche de Marie-Madeleine. Ça se termine par un simple alexandrin. La mère, en sanglotant, lui fit signe que non. Il ne voulait pas intervenir, quoi. Il lui dit, c'est ce qu'il a à faire. Bon, ben, tout ça, c'est beau, vous voyez, c'est pour ça que j'étais encore très attaché à ce personnage de Yeshua. Si vous me demandez si je l'appelle Dieu, je vais vous faire la réponse qu'un prêtre, que j'aime beaucoup, qui s'appelle l'abbé Auguste Rosy, faisait à ceux qui, de la part de l'évêché, voulaient faire une sorte de sommation, parce qu'il était par en marge, il m'a fait un peu suspect. Croyez-vous que le Christ est Dieu? Et il répondait, voulez-vous me donner une définition de Dieu, puis je vous réponds après. Alors, moi je vais vous dire, hein, il y a une phrase encore de Victor Hugo, et si moi je suis un peu passionné de ce Victor Hugo, mais c'est vrai, Tolstoï ou Hugo, et je reste, il est passionné pour moi. Alors Hugo a écrit, c'est dans Le Pape. Le Pape, c'est 1878, c'est un très beau livre, on le lit plus, on l'a bien sûr. En 78, le Pape avait changé, c'était les Pinatas, j'ai honte, le Pinat, celui du Sénat-Bussé, qui était remplacé, je parlais longtemps, et Victor Hugo lance un petit pamphlet, qui s'appelle Le Pape, où il explique comment il voit le Pape. Il dit à l'église, hôtel doré, dédors-toi, fila. Si tu te dédors, tu rayonneras, parce que tu seras plus riche, mais tu seras riche. Alors c'est là, le Pape, que j'ai trouvé cette phrase de Victor Hugo sur le Christ en disant c'est l'être, il a dit l'être, qui a montré toute la quantité de Dieu qui peut tenir dans l'homme. L'être qui a montré toute la quantité de Dieu qui peut tenir dans l'homme. Bon, alors voilà, ce que je voulais vous dire sur les chances d'un christianisme renouvelé, enfin, regardez de près, quant à ses origines. Et je demande également le même courage à mes amis catholiques pour regarder l'histoire de leur Église. Est-ce que vous savez que les premiers conciles ont été réunis par la volonté des empereurs? Que le concile de Nicée a été réuni par Constantin dans son propre palais, sous le contrôle de Constantin, et de Constantin qui n'était pas chrétien. Ça se passe en 321, je crois, et Constantin se fera baptiser, parce qu'on ne sait jamais, à la veille de sa mort. Mais il n'est pas chrétien quand il organise ce concile et qu'il pèse sur le concile. Est-ce que vous savez que c'est Théodose en 380, et pas Constantin comme il dit souvent, on dit que Constantin a fait du catholicisme, c'est une religion d'État, pas vrai, il a simplement donné la liberté aux chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens étaient trop nombreux et que c'était une histoire qui comptait, donc il fallait s'appuyer sur eux. Mais Théodose, c'est Théodose qui a fait du christianisme une religion d'État. Ben ça, c'est la catastrophe, une des catastrophes de l'Église. Il y a les deux catastrophes, celle-là et puis celle de même, bref, je vous raconterai. Alors la première catastrophe, religion d'État, mais qu'est-ce que c'est qu'une religion d'État? C'est épouvantable. Pensez à la Bruyère. La Bruyère figurera, parce que regarde ce qui se passe à la cour, hein. Un dévot de cour est un homme qui est sous un roi athée, serait athée. Avec une religion d'État, la religion devient sociologique. Au dépend du prince. Regardez ce qui s'est produit en 6 semaines, hein, où il y a des enclaves protestantes, des enclaves catholiques. Ça dépendait du prince. Le souverain choisissait pour ou contre la réforme, alors les gens suivaient. Parce qu'il y avait leur intérêt de suivre. Donc ça n'est plus une religion qui sort du cœur, c'est une religion sociologique, une religion comme ça, parce qu'il faut le faire. Parce que c'est la religion de l'État. Catastrophe. Le deuxième drame, c'est donc 750, c'est quand Pépin le Bref, qui, si je ne me trompe, est le père de Charlemagne, décide de donner au pape un état. Le pape va devenir un prince temporel. Et il est toujours, vous savez, puisqu'il y a un état du Vatican, puisqu'il y a des représentants diplomatiques qui appellent les nonces du pape. Ça a été une tragédie pour l'Église, ce fait qu'elle était que le pape devenait un prince temporel. Je vais vous donner quelques exemples. Fénelon, à l'égir, puis je m'en risque. C'est autrement estimable que Bossuet. Bossuet était une carpette. Mais Fénelon est un petit chien de boue. Et il dit carrément à Louis XIV que son royaume est une misère. C'est vrai, c'est épouvantable. La fin de Louis XIV, par exemple. Alors, Bossuet sait que le roi est extrêmement irrité du comportement de Fénelon, parce que Fénelon se mêle de politique et qu'il parle de justice. Et Bossuet s'est dit, le meilleur moyen de fermer les bêtes à les aides, c'est de me faire condamner. Alors on va essayer d'obtenir que le pape condamne, théologiquement, Fénelon. Parce que Fénelon soutient Isabelle Nambillon, la théorie du sujétisme. J'en ai parlé avec un bien autre spécialiste que moi-même, l'abbé Brémond, qui était dit ça de près. Et il m'a dit, je peux vous assurer en tant que prêtre que le cri du sujétisme que j'ai bien étudié n'est en rien vulnérable, pas l'ombre d'une hérésie. Le pape savait très bien que Fénelon est invulnérable, mais c'est un prince temporel. Et qu'est-ce qu'il est, le pape, petit prince temporel, à côté de l'énorme Louis XIV, il ne peut qu'obéir. Alors c'est mieux qu'alors qu'il dit, vous allez me condamner, théologiquement, c'est fait le nom. Affreux, hein, affreux de penser qu'un prince de l'Église, un homme qui est responsable de la doctrine, modifie cette doctrine pour plaire à un prince parce qu'il a eu un prince. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu le concordat d'Ivoire avec Bonaparte? Avec une exclusion du pape, le pape n'avait plus le droit de s'occuper des évêques, les évêques ne pouvaient plus communiquer, hein, les évêques n'avaient plus le droit de communiquer avec le pape sinon par l'entremise du ministère de l'Intérieur. Parce que Napoléon est un type intelligent et qui s'est dit, si je tiens les courriers entre les mains, c'est très épatant, ce sont des super préfets, c'est magnifique. Le pape ne pouvait pas accepter ce concordat. Alors Napoléon qui occupait déjà une partie, il était Bonaparte, hein, qui occupait déjà une partie des territoires pontificaux, a laissé savoir au pape qu'il pousserait ses troupes à l'intérieur, plus loin, jusqu'à Rome s'il le fallait, s'il le fera finalement. Il fera obéir le pape parce que le pape est un prince temporel. Est-ce que vous savez ce qu'il a produit en 1832, le 8 juin 32, je suis très très savant parce que j'ai étudié la semaine dernière, en voyant des notes sur Lamennais. Lamennais dirigeait un journal L'Avenir, vous savez qu'il était un catholique de gauche, la première fois j'ai lu ça. Et comme il voudrait obtenir un avis du pape, d'aller à Rome pour essayer de se faire bénir, enfin, par Rome. Et c'est pas Rome qui va recevoir ce pauvre Lamennais, mais en plein cœur, le bresse aux évêques polonais du pape Grégoire XVI. 8 juin, 9 juin, je veux dire, 1832. Il y avait de nouveau une révolte en Pologne. Il y avait tout le temps, vous savez, parce que la Pologne était dévorée par les voisins, en particulier par Catherine II. Et en 30-31, il y avait eu une révolte nationale en Pologne. C'est parce que le pape est un prince temporel, et qu'il fait partie de la Sainte Alliance. Qu'est-ce que c'est la Sainte Alliance des princes contre les peuples? Alors, c'est épouvantable, mais j'ai dit épouvantable. Bref, de Grégoire XVI aux évêques polonais pour les condamner, parce qu'ils doivent obéissance au tsar. C'est ça, c'est le souverain. Souverain temporel, bien sûr, parce que moi, pape aussi, je dois être obéi. Justement, il avait des révoltes du côté de la Romagne, et il avait été obligé d'apporter à mener des troupes, enfin, de supplier les troupes autrichiennes pour venir faire obéir ces gens. Alors il y a un pape qui va condamner les évêques polonais qui défendent non seulement leur nationalité, ça ne le regarde peut-être pas, mais ils défendent leur foi contre un schismatique, puisque le tsar était schismatique. Et bien le pape va condamner ces évêques parce que le pape est un prince temporel. Qui est révoltant, qui est des noms, qui sont des diplomates, qui sont des princes diplomates. Bon, je vous parlerai très fort sans argument. Alors pardonnez-moi, c'était ça que je voulais vous expliquer sur les chances du christianisme. On a parlé à Giordanamento. Oui. Soyons sérieux. Que ça veut dire Giordanamento? Ça veut dire mettre au goût du jour. Et c'est un prêtre qui m'a dit, un prêtre qui n'est pas sorti de l'église, qui m'a dit, oui, vous savez, on a dépoussiéré la vitrine et on a un peu changé l'ordonnance. Mais c'est toujours tout même la même vitrine. Ben, mais c'est vrai, c'est pas de ça qu'il s'agit. Savez-vous que Teilhard Chardin, c'est un mauvais esprit? Et Teilhard Chardin avait appris qu'il y avait déjà une petite modification, toute petite, vous savez, c'était vers 1950 qu'on avait décidé maintenant que les curés et les prêtres diraient la messe en regardant le public, et non plus en les tournant le dos. Ce qui a permis à Claudel d'écrire un article terrible, c'est-à-dire la messe à l'envers, parce qu'il n'aimait pas ça. Eh bien, Teilhard Chardin avait dit, c'était très gentil ça, mais pardonnez-moi, c'est pas moi, c'était Teilhard Chardin, c'est un grain de blé dans un sac de chure. Un grain de blé dans un sac de chure. Donc, ce n'est pas Giordanamento qu'il faut, mais c'est Risorgimento. C'est-à-dire un renouvellement. La seule chance qu'il a, le christianisme, c'est de se renouveler dans sa théologie même. C'est fini, vous savez, c'est fini, c'est plus acceptable. L'idée d'un Dieu comptable et surtout d'un Dieu vengeur. C'est fini, l'idée de la rédemption racha. C'est ce qu'on a appris à moi, pourtant, quand j'étais petit à l'heure. On a appris au catéchisme, il y a des gens qui s'appelaient Adam et Ève et qui ont désobéi à Dieu. Et Dieu est impardonnant, hein, il ne pardonne pas. Alors il attend que la descendance d'Amariel, qui est toujours pas prise, n'a pas le droit d'entrer au paradis, il attend qu'il vienne à rester du sens, puis il lui vient une idée. Comme sa majesté infinie a été offensée, il n'y a qu'un être infini qui peut réparer l'offense. Alors il grandit son fils. Et les humains qui avaient commis une faute de désobéissance. Pour commettre maintenant un assassinat, eh bien c'est tout réglé, parce que le sang a été versé, le sang du Christ. Alors ce Dieu qui a besoin de sang, ben c'est inacceptable. Il y a une refonte monumentale qu'il faut faire de la théologie, de fond en comble. Il faut renoncer à certaines mythologies. Puis je vous dis toute ma pensée dans les évangiles, je suis persuadé que la jonction de l'Éc et de Matthieu sur l'enfance du Christ et de la jonction postérieure et tardive. Quelle preuve est-ce que j'en ai? Sauf que Paul, avec le bras, vous savez, Saint Paul, c'est quoi, faut terminer Paul. Il écrit entre 50 et 60, il a mort en 64. Mais si vous prenez les textes de Paul, vous apercevez que Paul n'a aucune idée, absolument aucune idée d'une naissance miraculeuse du Christ. Puisque Paul écrit littéralement, de par la chair, il est de la race de David. Donc, je me dis que la Sainte Vierge est de la race de David, c'est chose que de la race de David. Donc un homme comme Paul, qui écrit vers l'année 50, c'est-à-dire au milieu du 1er siècle, est convaincu que Yeshua est né comme tout le monde. Je pense en effet que ces textes, qui sont particulièrement mythologiques, constituent l'obstacle actuel, constituent l'obstacle à la fois. Pour finir avec une imagerie trinitaire, je me souviens, j'étais donc, je vous l'ai dit, pendant 17 ans, j'étais à Berne. J'allais quelquefois à la messe à l'église de la Trinité. Et bien au-dessus de l'hôtel de l'église de la Trinité, il y a l'admirable fresque très récente du 19e siècle. Vous voyez bien entendu un dieu barbu mais blanc pour son père, puis à sa droite un autre dieu qui est barbu mais blond, et il y a un pigeon, une colombe qui vole au-dessus. C'est la Trinité. Et tout ça, c'est plus possible, quoi. C'est réellement plus possible. Si le christianisme a encore une chance de se faire croire, c'est d'abord si l'Église accepte de demander pardon pour tout ce qu'elle a fait de mal, l'Inquisition ou bien autre chose, et si ensuite elle nous dit des choses qui soient qui correspondent à ce que nous avons en nous de meilleur, de plus profond. Qu'on ne nous dise pas que ce verbe est immuable, c'est pas vrai. Et c'est pendant une formation, hein, ça n'a pas touché les hommes depuis le début. C'est pas vrai. Est-ce que vous savez qu'il a fallu attendre le 11e siècle pour que s'impose le célibat ecclésiastique? Mais pendant plus de 1000 ans, les prêtres ont pu se marier comme tout le monde. Est-ce que vous savez que c'est au 13e siècle, en 1215, qu'au fil de Latran, que la transsubstantiation a été déclarée de dogme? Est-ce que vous savez que c'est en 1950 qu'un pape qui s'appelait Pie XII a encore ajouté quelque chose aux dogmes, puisque le dogme de l'assomption, c'est-à-dire la montée corporelle de la Sainte Vierge vers le ciel, est devenu de dogme? Eh bien, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans le christianisme, dans le catholicisme. Il faut qu'ils doivent évoluer encore. Il y a des signes, il y a de bons signes. Vous savez, j'ai d'abord été naïvement ravi, lorsque, pour la première fois, il y a quelques années, je n'étais pas un Italien qui était pape. Quand j'ai su qu'il était là, c'est-à-dire un Polonais, je me suis dit, quelle chance. On échappe à la curie. Et j'ai su très rapidement que c'était le cardinal Benelli qui avait manœuvré pour que ce soit un Polonais qui soit élu. Parce que le catholicisme polonais est encore pire que le catholicisme romain. Alors j'ai été consterné, peu à peu consterné. Je vous dis des choses, pardonnez-moi, très indécentes, mais c'est comme ça, soit. Alors j'ai été consterné par le pape Pie XII, et puis voilà que maintenant, depuis peu de temps, je suis content. Il a fait des choses les plus inattendues. C'est lui qui a parlé de la liberté de conscience. Ça va de soi, hein. Mais vous savez peut-être qu'en 1864, le pape Pie IX, dans son film La Bouche, allait condamner la liberté de conscience, qui va de soi. Ben, par bonheur, Jean-Paul II a dit liberté de conscience. C'est lui qui a dit aussi droit de l'homme. Or, le pape, comme il s'appelait Pie VI, je crois, avait condamné la déclaration des droits de l'homme de 1889. Et nous avons un pape qui parle, et qui allait en parler sérieusement des droits de l'homme. Mais il y a mieux. Beaucoup mieux. Et ça me touche beaucoup, la visite qu'a fait personnellement Jean-Paul II à la synagogue de Rome. Mais vous rendez compte, c'est absolument énorme. C'est le pape, après avoir insulté pendant des siècles les juifs, après les avoir appelés des homicides. C'est le pape qui a marché, qui a fait les premiers pas, qui est allé trouver. Et qui a dit, vous savez, il l'a dit publiquement, vous êtes nos grands frères, les juifs, allez à des chrétiens, c'est les grands frères. Et il a fait ça parce qu'il avait besoin de leur demander pardon, quoi. Vous savez, il y a eu aussi la réunion d'Assise. C'est de l'année dernière, Assise. Et c'est prodigieux quand on y pense, Assise. Vous savez que c'est le pape qui a réuni là des représentants de toutes les grandes religions. Il y avait des représentants de l'islam, des représentants du bouddhisme, des représentants de l'hindouisme. Sans préséance. Vous m'entendez? Sans préséance. des gens simplement qui croient en Dieu, en fait, qui pensent à une certaine transcendance. Et bien tout ça, ça me donne une certaine espérance, c'était possible. Et puis surtout, je m'accroche comme désespérément au chapitre 4 de Jean, versets 22-24. Comment les catholiques, les chrétiens, ne sont-ils pas attachés à ce qui leur a été dit de la manière la plus explicite dans l'Évangile? C'est le Christ qui parle à une Samaritaine. Ça est pour près du plaisir commun. Et déjà, les disciples, parce que vous parlez à une femme, ça ne faisait pas, je disais, de parler à une femme. Et à une Samaritaine, vous rendez compte, une Samaritaine. Et qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai relu encore hier, quoi, ce matin, pour bien vous le dire ce soir. L'heure viendra. Et elle est venue, vous entendez, c'est dans le texte. Reprenez ça chez vous tout à l'heure. Et elle est venue. On n'adorera plus, ni sur le mont Garizim, où vont les Samaritains, ni à Jérusalem, au mont Sion, mais en esprit, en vérité. Ça veut dire que ce n'est ni le mont Garizim, ni Jérusalem, ni Rome. Et que tout se passe à l'intérieur, en esprit et en vérité. On n'atteint pas Dieu dans telle synagogue, dans telle église, dans la France, entre nous-mêmes. Ben voilà, est-ce que je fais des illusions? Est-ce qu'il y a une chance? C'est possible. Regardons maintenant du côté des non-croyants. Bien fait, il y a un homme, je ne sais pas si vous connaissez, Edgar Morin, que j'ai eu la chance de rencontrer personnellement à Genève à la télé. C'est un homme admirable, un rationaliste, et qui dit que je suis un rationaliste ouvert. Rationaliste ouvert. Ça me fait penser, je n'avais pas préparé les choses, comme que je viens de terminer mon livre sur Robespierre, et j'ai terminé, j'ai mis une postface. Il y avait quelque chose de très inconvenant que je vais vous dire parce que ça s'accroche à ce que je viens de vous dire sur le rationalisme. Donc, j'ai fait une étude sur Robespierre, très inégale, volontairement inégale, et trois quarts de mon livre sur Robespierre politique. Mon livre s'appelle Robespierre politique et mystique. Hein, politique et mystique. Trois quarts, c'est son action politique, et le dernier quart, c'est sa mystique. Ce mode mystique, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un ennemi de Robespierre, ça vient de M. Oulard, c'est pour ça la Sorbonne qui s'entendait pas être Mathieu. Oulard, dans un article de 1785, il disait, Robespierre, c'est un mystique assassin. Mystique assassin, je crois qu'il a dit aussi le mot. Eh bien, j'avais fait une conférence à Bruxelles sur Robespierre. Et à Bruxelles, il y avait quelqu'un qui travaillait dans le cadre enchaîné, et qui m'aidait quand même toujours beaucoup, qui signait Clément Ledon, par antinomie, parce qu'il faisait la chronique des étranges lucarnes, quoi, à la télévision, et il était très loin d'être Clément et très loin d'être doux. Bon, comme il engueulait tout le monde, il avait pris le nom de Clément Ledon, son vrai nom, c'est Pierre Chatelain. Je l'aimais beaucoup, c'était mon meilleur ami. Et je vais vous dire de grosses choses, Pierre. Alors, quand j'ai fini la conférence, Pierre m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Alors, pardonnez-moi, il m'a dit, ne m'emmerde pas avec ton Robespierre, guillotine, plus guillotine, c'est parfaitement dégueulasse. D'autre part, qu'est-ce que c'est que cette chasteté? Qu'est-ce que c'est que ce faux moine? Il aurait bien dû baiser comme tout le monde plutôt que de couper des têtes. Mais, pardonnez-moi, même disait-il, il a deux bons points. Primo, c'était pas un homme de fric comme ce salaud de Danton, dit-il. Et deuxièmement, l'état d'horripilation que lui inspiraient les rationalistes à œillères, c'est con. Voilà ce que me disait mon ami Pierre. Eh bien, voyez-vous, un homme comme Morin, Gambrin, ne veut pas être rationaliste à l'œil. Il dit, il doit y avoir un rationalisme ouvert qui traite avec ceux qui dépassent la raison. Qui dépassent la raison. Et Arthur Gilles, que vous avez été dans ici, est un homme qui a insisté sur ce fait que je devinais, mais que j'ai mieux compris grâce à lui, que la physique astronucléaire nous amène dans un monde où nos catégories mentales de l'espace et du temps disparaissent. Vous savez que, à certains stades de l'univers, il y a une fusion de la matière, de l'espace et du temps. C'est très difficile à concevoir dans notre esprit rationaliste, mais c'est comme ça. Je pense aussi à un incroyant que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Francis Janson, et qui a écrit la foi de l'incroyant, au point qu'il a été invité à Thésée pour s'adresser à la communauté Thésée. Et puis il y a mon ami Zola, j'ai beaucoup d'affection, vous savez, pour cela. Et Zola, dans son dernier bouquin des Rougon-Macquart, il se met lui-même en scène sous le titre de Dr. Pascal, c'est lui, quoi. Il dit que Pascal avait une certaine conception du monde, vivre pour l'effort de vivre, pour la pierre apportée à l'œuvre lointaine et mystérieuse. La seule paix possible ici-bas étant dans la joie, c'est l'effort accompli. La paix, obtenue par la pierre, portée à l'œuvre lointaine et mystérieuse, c'est tout de même manifestation d'une espérance. Et l'idée d'une transcendance, c'est une chose que je crois capitale. Je sais bien qu'il y a encore des tas de difficultés avec cette objection. Je vais montrer un des malheurs auxquels je me heurte. Cela, les ententes américaines, quoi, qui existent entre arabes et juifs. Mais ce sont des sémites. Mais vous savez bien, si je regardais encore le dictionnaire, les arabes sont des sémites. Et une haine viscérale des juifs. Les arabes descendent, par exemple, d'Ismaël, vous savez, Ismaël, là, dans le désert. Eh bien, ça, tant qu'on ne sera pas arrivé à une entente, c'est un malheur sanglant dans le monde. Bon, il y a autre chose en fait, qui crée des difficultés terribles, c'est qu'il faut tout de même une sorte de jonction que je n'arrive pas à établir, moi je ne sais pas comment l'établir, entre ce neutre, ce mot neutre, hoc code, cela que l'on appelle Dieu, cela, ça a l'air du neutre, hein, et la chaleur d'une présence. Clovel, que je conteste souvent, a tout de même une très belle chose, c'est de créer des sorties de lui, s'adressant à Dieu. Et voici que vous êtes quelqu'un tout à coup. Que vous êtes quelqu'un tout à coup. Et je ne trouve pas encore la jonction entre ce hors-code, ce neutre, cette totalité vivante dont je vous ai dit tout à l'heure, et ce Dieu qui est tout de même quelqu'un, sans être mythologique. Difficile, difficile. Et puis le drame terrible, je suis arrivé au bout de l'exposé ou presque. Et vous regardez ça pour la fin parce que c'est terrible. C'est le mal. C'est le mal injuste, quoi. C'est la souffrance des innocents. Les souffrances de la guerre, c'est votre faute. Mais les souffrances naturelles, c'est pas notre faute. C'est la faute de Dieu, quoi, comment dire. Vous avez tous vu, comme moi, à la télévision, la petite colombienne, vous vous rappelez, quoi, à la gauche qu'on a vu mourir. Mais c'était inacceptable. Alors comment voulez-vous qu'on parle de l'amour de Dieu, qu'on nous dit ce Dieu qui est attentif à nous tous, qui n'y a pas un cheveu qui tombe dans sa tête sans qu'il s'en occupe. Et l'horreur de ce monde. Un homme comme Hugo, qui était croyant et qui priait, il a écrit deux choses que je veux vous dire et qui montrent à quel point ça l'a tenu dans sa chair, enfin, cette question du mal injuste. D'abord, il représente une mère, une invente peut-être, qui est en train de voir agoniser sa petite fille dans les convulsions. Puis elle a un prêtre qui essaie de lui murmurer des choses très douces et consolatrices. Et cette femme se retourne avec une espèce de fureur de colère contre ce curé. Et lui dit en vers, et Victor Hugo savait tellement manier le vers que ça n'a pas l'air d'un alexandrin, qu'est-ce que votre Dieu fait pendant ce temps-là? Pendant que ma petite gosse innocente crève dans les souffrances, qu'est-ce qu'il faut votre bon Dieu? Bon, ça c'est une invention, hein. Quelque chose qui n'est pas une invention. C'est dans les derniers carnets de Victor Hugo. Vous savez, c'est l'art de grand-père, quoi. Il avait un petit fils et une petite fille. Et je ne sais plus s'il s'agissait du petit ou de la petite. C'est le vieux qui est penché sur le berceau, ou son petit-fils, ou sa petite-fille, bien repu quand ils ont pété, quoi, vous savez bien. Il sourit, quoi, il rit aux anges, comme on dit. Alors Pierre Hugo regarde cette petite-fille qui sourit, et il dit, cette confiance, c'est à l'infini. Si le malheur arrive, ce sera un abus de confiance, là, vous savez bien que le malheur va arriver. Alors vous connaissez l'utilisation de Camus. La seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Alors tout à l'heure, j'ai essayé de m'expliquer que, au fond de nous-mêmes, il y a une espèce de connaissance substantielle de Dieu. Et ce avec quoi nous avons ce contact, c'est précisément avec une puissance d'amour. Alors je ne peux pas arriver à faire la jonction. Je ne vois pas comment joindre ce que je sens au fond de moi-même, contact avec un infini, qui est un infini d'amour, et l'horreur du vide de la vie, quelqu'un, je ne sais pas. Et là encore, je me réfugie chez Victor Hugo. Il me sert de libi bien souvent. Hugo parle d'un aveugle qui ne voit pas, bien sûr, il ne voit pas où est le soleil. Mais il sent la chaleur du soleil. Alors il se tourne du côté du soleil. Ben moi, sans savoir non plus, je me tourne de ce côté-là, dans une obscurité presque totale, mais en disant que je ne me tourne pas parce que je sens quelque chose qui ressemble. Ben voilà, voilà, j'ai fini mon histoire. Je vous ai dit que j'ai 84 ans, bientôt terminé, que l'idée de la mort m'est tout le temps présente, et qu'elle ne me fait pas peur, mais pas peur du tout. J'ai longtemps peur de mourir en me disant que ça va faire beaucoup de peine à mes enfants, ils sont tous établis. Ma femme est extrêmement croyante et courageuse, et elle accepte ces idées avec ça, c'est buté. Et moi, pardonnez-moi de vous dire que c'est une grande curiosité. Je me dis, je risque rien. Parce que si je me trompe, mon esprit va disparaître en même temps que mon cerveau. Donc je ne serai même pas déçu, parce que je ne comprends rien, ça rien. Hein. Et si c'est, ben ça va être passionnant. Et je voudrais finir d'une manière prétentieuse en vous citant une phrase dont je suis assez content de mon bouquin. J'entrerai à ce moment-là dans ce que Victor Hugo appelle l'incompréhensible incontestable. J'entrerai dans l'inimaginable, dans ce lieu sans espace et dans ce temps sans durée où la présence succède au pressentiment. Merci.
Ce que nous ressentons tous certainement ce soir. Henri Dimas, sortez de l'ordinaire, vous êtes extraordinaire. Et merci Henri Dimas, à l'année prochaine.
Enfin.